Le village historique acadien vous présente la chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Et il va nous parler des gagnons ce matin de la péninsule acadienne. Bonjour Philippe.
Bonjour Claude.
Alors les gagnons sont arrivés quand eux dans la péninsule?
Eux autres sont arrivés dans les années 1840, mais je vais remonter à le plus loin que j'ai pu là, en cherchant sur l'Internet cette semaine. Puis c'est ça, c'est que ça s'est donné, moi je fais encore des recherches sur les gens âgés dans la région. Là, puis j'avais jamais interviewé de gagnon en 15 ans. Puis là, coup sur coup, j'en ai interviewé deux d'affilée. Fait que je me suis dit, ben tiens, ça, je pourrais en parler. Puis les gagnons, ben, c'est une grande famille, hein, mais au Nouveau-Brunswick ou dans notre région, de la péninsule acadienne, il y a seulement le même ancêtre qui est venu dans la région. Puis peut-être que récemment, il y en a d'autres qui est venu de d'autres branches, là, mais qu'ils sont installés au Québec d'abord et avant tout dans les années 1600. En plein dans ce que je dirais l'expansion des années 1640, là, quand on commençait à avoir beaucoup de Français qui arrivaient. Après, un petit peu avant, puis un petit peu après la fondation de Montréal, là, mais ils vont quand même s'installer dans la région de Québec. Puis en faisant de la recherche sur Internet, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de branches de gagnons, comme la note, là, c'en est une en particulier, mais en même temps, les cousins là, de ce pionnier-là, gagnon, vont arriver avant lui. Fait que le pionnier de ma branche, à moi que je parle, arrive dans les années, je pense, les années 1650, tandis que les autres arrivent un petit peu avant, là. Ils sont trois, quatre frères, avec une de leurs sœurs, puis leur mère qui arrive. Il y en a d'autres qui vont rester en France. Puis de là, ben, vont venir toutes les branches de gagnons qu'on connaît au Québec, là. Puis après ça, ben, le cousin, je pense que c'était Robert, là, si je me rappelle bien, là, de mes souvenirs, je ne l'ai pas pris en note, mais il me semble qu'il s'appelait Robert à Jean, là. Fait, celui-là va s'établir au Québec. Il y en a un qui s'établit à la paroisse Sainte-Famille sur l'île d'Orléans. Puis il y a des monuments qui existent à sa mémoire à lui qui a été fait par ses descendants. Mm-hmm. Et si quelqu'un fait de la recherche sur les Gagnon, on s'intéresse à ça, on peut aller sur l'île d'Orléans, puis il y a des endroits qui restent de la famille Gagnon. Il y a aussi une maison Gagnon. Je n'ai pas pu trouver nulle part dans les bases de données de lieux patrimoniales qu'est-ce qui était le premier gagnon qui a vécu dans cette maison-là. Ben, elle daterait des années 1700, puis encore sur l'île d'Orléans, là, ce serait un des gagnons qui s'est établi, puis qui a probablement eu des enfants. Puis la maison familiale, là, c'est une maison en pierre, là, typique comme quand on voit les belles maisons.
Là, avec des roches, là?
Oui, c'est ça, avec des pierres, puis mm-hmm. ça, puis une belle maison qui a été restaurée. Puis en France, lui de ma lignée, là, il a encore, sa maison où est-ce qu'il est né existerait en France encore, là, une maison des années 1600. Fait que ça aussi, si jamais on va en France, là, on peut visiter la maison ancestrale de ma branche de gagnon à moi que je vais parler. Là. Fait que moi, je vais parler d'un type qui est né à Rivière-Well, qui est Pascal Gagnon. Pascal était le fils à Isidore, puis Isidore était le fils d'un autre gagnon, puis d'un autre gagnon. Puis
c'est Rivière-Well qui est un petit peu dépassé Québec, là, quand on va à Québec, avant Québec, là.
Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus dans ces années-là. Moi, je pense que c'est juste après, ben je pense, c'est juste après ça, c'est juste après les rébellions de 1837-1838. Eux vont venir en 1840. C'est peut-être à cause de ça. Je sais pas, c'est pas écrit la raison pourquoi ils vont venir s'établir dans la région de Nouveau-Brunswick.
Comme de quoi ce serait plus sécuritaire, si on veut?
Oui, c'est ça, j'ai cru peut-être hypothéser, là. Mm-hmm. Tu vas développer une hypothèse de pourquoi ils ont quitté. Peut-être qu'il n'y avait pas de place, peut-être qu'il y a toutes sortes de raisons. Là. Mais c'est juste deux ans après, on va unir le Canada, le Bas-Canada, le Haut-Canada. Tu sais, quand on regarde la plus grande histoire, là, il y a toutes sortes d'événements comme ça. Ça peut être quelque chose de très local aussi, puis qu'il manquait de la ferme, puis il voulait y aller sur le bord de l'eau. Mais il y a un de ses voisins qui avait déjà établi à Four Road l'année d'avant ou l'année avant ça, qui était Guillaume Laplante. Mais quand on regarde sur les concessions de terre, c'est pas Pascal qui va avoir la concession de terre. Lui est probablement décédé, puis il n'a pas appliqué pour la terre. Fait qu'il vivait là sans obtenir le titre officiel. C'est ses fils qui vont obtenir deux morceaux de terre.
À quel endroit?
À Four Road, là, direct sur le bord de l'eau, là, entre Four Road puis en allant par Inkerman. Là. C'est comme les derniers à avoir des terres là, dans ce coin-là, juste avant les tourbières, là, que les gens dans le coin ils vont connaître ça. Puis lui, là,
en prenant le chemin Palo, ça?
Peux-tu prendre le chemin Palo? Oui, on peut prendre le chemin Palo pour se rendre par là, oui, okay. C'est ça, oui. Ouais. Puis, c'est ça, lui, Guillaume Laplante est juste à côté. Fait que c'est lui qui va demander à Pascal Gagnon. Il va dire, hey, je me suis trouvé une place, tu devrais venir me rejoindre. Ce qu'il va faire, Pascal va venir le rejoindre. Il était déjà marié, puis il avait déjà une famille, lui, déjà, depuis un petit bout. Là, il était marié avec une Marie Millard ou Marie Rémillard. Là. Des fois, je trouve les deux, là, puis moi, je suis pas un spécialiste des familles, fait que on trouve les deux.
Fait que lui, il s'agit que quelqu'un a fait une erreur, puis on est fait.
Ouais, il a enlevé le ré de Rémillard, ou ils ont ajouté ça, tu sais, des fois, n'importe quoi. Là. Fait que eux autres vont... Il y a deux hypothèses, là, que comment est-ce qu'ils vont voyager, parce que c'est tout un périple, là, en 1840, avec une femme qui, je sais pas si elle est enceinte, là, mais en tout cas, ils étaient en plein développement de leur famille. Eux autres, ils vont voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
bon, Dieu,
comme 15 enfants.
OK!
Ils vont avoir comme 15 enfants, puis là-dessus, ben, il y en a une couple qui était... ados proches, là, puis une ado qui vont venir, là. Puis, j'étais-tu enceinte? Ouais, elle était enceinte, elle, que je pense, là, quand elle est venue en bateau ou en charrette ou je sais pas trop. Puis, ils vont longer le long de la côte, puis ils vont soit prendre le chemin des Métis, qu'on appelle, là, qui aujourd'hui, qui coupe un petit peu avant d'arriver en Gaspésie, puis qui coupe directement à Campbellton. Et de là, c'est là qu'on sait pas s'ils ont pris la route vers l'eau ou la route vers la terre, parce qu'on a deux trajets qui sont...
deux possibilités.
Deux sources. Mm-hmm. On a deux sources qui disent deux choses différentes. Fait que là, je ne sais pas si un avait raison ou l'autre avait raison, mais c'est pour ça que j'ai mis une carte sur Facebook hier qui fait les propositions des deux chemins. Mm-hmm. Soit qu'ils ont décollé à
pied. Peu importe, on est arrivé à cet endroit-là.
Oui, c'était quand même un chemin à faire. Surtout que si on fait celui à pied là, de Campbellton, jusqu'à... Il faut passer par Caraquet, puis il faut longer Chipagan, parce qu'on ne peut pas couper à travers les terres.
OK, c'est pas défriché dans ce temps-là. Là.
Ben non, c'est pas défriché. Il faut suivre tout le long de la côte. Puis c'est soit qu'ils ont suivi le long de la côte le chemin des Caps à Grand-Anse, puis ils ont continué là-bas par Chipagan, puis ils ont fait le tour, puis ils ont arrivé à Fort Road. Ou l'autre hypothèse que j'ai lue, c'est qu'ils ont pris un bateau de Campbellton, un type qui faisait Campbellton, Miramichi, puis à Miramichi, ils ont trouvé quelqu'un qui allait à la Mecque. Puis de la Mecque, ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui allait
à... C'est un méchant périple quand même, là.
Mais c'est ça, je veux dire, c'est des meubles, les affaires, puis les 3-4 enfants ou 5 enfants. Là, ils étaient comme enfants, 3-4, 5 enfants en bas âge, il y en a qui a 5 ans. C'est très... la femme enceinte, c'est pas évident. Fait que c'est ça qu'ils vont faire comme chemin. Puis ils vont s'installer là. Après ça, lui, Pascal va demander à un de ses neveux de venir le rejoindre, qui est François Lévesque, juste un trappeur, mais il va pas rester lui. Fait qu'il va s'en aller. Puis on dit que Pascal, pendant plusieurs années, il va faire la ferme, il va développer sa terre. Puis il va faire le commerce de bois aussi avec Saint-Pierre et Miquelon. Fait qu'il y avait des contacts là. Puis on n'a pas trouvé sa date de décès, lui, Pascal Gagnon, mais on pense. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il était mort en 1855 et 1860. Parce qu'au recensement de 1861, il y a quelques gagnons qui sont là, sa femme...
Donc, il n'a pas été si longtemps, il n'a pas été une vingtaine d'années?
Une quinzaine d'années, okay. Puis sa femme, elle va vivre, là, elle va être veuve. Là, c'est trois veuves l'un à côté de l'autre, hein, en tout cas, tu regardes le recensement. Il y a la veuve Gagnon, puis il y a la veuve Laplante, puis il y a la veuve Mazerolles, qui est tout des liens de parenté, c'est tout du monde qui se connaît. Fait que ils vivent là, eux autres, à Fort Road. Les familles, les enfants vont se marier avec tout le monde, un petit peu de toutes les familles de ce coin-là. Il y en a une, c'est Virginie, elle va marier Michel à Pierrot Robichaud. Puis Michel à Pierrot Robichaud, on a sa maison au village acadien. Fait probablement que les gagnants ont peut-être mis les pieds dans la maison Robichaud qu'on a au village acadien. Les autres, ben, vont se marier avec des Robichaud, des Mécras, des Mazerolles, tout le monde de ce coin-là.
Mais est-ce que, là, je vais peut-être trop vite, est-ce que Bois Gagnon, ça a rapport aux gagnants?
Bois Gagnon, ça a rapport aux gagnants d'une autre branche là, que je,
okay, c'est pas
je,
la...
je vérifierais. Eux autres, c'est les Belles-Îles, c'était Louis Gagnon, qui était un prêtre qui faisait trois pistoles, qui n'est pas trop loin là, dans ces coins-là. Mm-hmm. Mais ça revient à la grande famille de Gagnon parce que les premiers convenus de France, ils étaient cousins de loin. Là. Fait que ça probablement que dans les années 1500, là, ça reviendrait tout au même Gagnon. Là. Puis moi, je suis allé voir un des descendants de lui, là, Pascal. Là. Mm-hmm. Je suis allé voir Luc Gagnon, qui vit toujours à Foro. Puis je lui demandais de parler comment ça se passait dans ce temps-là. Puis lui, c'est ça, c'était Luc à Philippe, à un des petits-enfants à lui, là, à Pascal Gagnon. Puis ils vivent encore à Foro. Il y a encore plein de Gagnons à Foro. Eux autres vivaient vraiment sur le bord de l'eau là, à l'époque. Là. Puis la maison, là, je me souviens un peu plus, là, j'ai pris des notes là. Je pense qu'il est né dans la nouvelle maison. Ben, son père avait hérité d'une vieille maison, puis on l'a démolie, puis on a construit une nouvelle maison. Et puis, elle existe encore sur le bord de l'eau, là, une belle maison, toute restaurée, là, sur le bord de la mer, construite en 1922, je pense. C'est la première
maison,
sœur aînée.
Maison centenaire.
Oui, maison centenaire. Fait que lui, il me parlait de toutes sortes de choses, là, de la vie quotidienne. Il se rappelait, lui, qu'avant telle époque, là, que les gens de Four Roses, certains avaient quitté le bord de la côte, puis avaient été à Sainte-Rose, par exemple, mm-hmm. certainement de la famille. Puis souvent, les gens de Sainte-Rose allaient pêcher pendant certaines semaines à Four Roses, parce que c'était encore des connexions. Ça, j'ai vu ça aussi ailleurs. Les gens de Saint-Isidore faisaient la même chose, allaient pêcher pendant les étés, puis après ça, revenaient à la terre. Les autres pêchaient, les gens de Sainte-Rose pêchaient le hareng, par exemple. Puis ils plaçaient ça dans leur jardin. Puis pendant comme une 2-3 semaines de temps, ils logeaient dans ce qu'on appelle les shantés. Les shantés, parce qu'il y en avait tout le long de la côte. Là. C'était des petites cabanes, ça, qu'on vivait là-dedans pendant quelques semaines, quelques jours. Hein. Puis on allait à la pêche. Après ça, on ramenait tout ça où est-ce qu'on vivait. Là. Fait que ça, c'était des typiques du temps. Lui aussi, dans sa jeunesse, il se rappelle des blackouts qui étaient dans les années 40, de la Seconde Guerre mondiale. Hein, les villages côtiers étaient beaucoup soumis à ce genre de blackout-là.
Non, mais blackout, c'est avec la sirène
la Seconde
et tout,
Guerre mondiale. Quoi? Pas avec la sirène, mais au moins fermer les lumières. Puis dans le centre de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait un risque là, à tous les soirs,
ouais, parce que,
de se faire voir par les sous-marins.
Les déserts, des sous-marins, ah oui?
Il y a eu jusqu'un sous-marin à Maisonnette. Puis ça, c'était un des souvenirs à lui. Mais ça, je me suis fait raconter ça aussi, que sur les longs de la côte, s'il y avait un danger de sous-marin
allemand... Le périscope était capable de nous voir.
Était capable de voir les lumières, puis voir les distances, et voir la côte. Fait que elle, sa mère, à lui, avait acheté des gros rideaux épais, puis qu'on fermait les lumières, fermait la lampe à huile dans le temps, puis on bouchait les fenêtres pour pas que...
Incroyable.
Voir, là, tu sais. Son père Gagnon, eux autres, c'était une famille qui allait à l'église d'Inkerman. Fait que ils étaient présents quand on construit l'église en 1916-1917. Fait dans ce temps-là, on gagnait notre banc là, quand on participait mm-hmm. à la construction de l'église.
Notre nom était sur le banc de l'église, OK.
Oui, ça c'était important. Luc, lui, a fait la mi-carême aussi qui s'en vient. Là. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. La mi-carême, là, c'était comme une espèce de Halloween. On passait les maisons pour ramasser du sucre, puis on faisait une fête pour la mi-carême. On avait plusieurs fêtes comme ça dans l'hiver. On avait le Mardi Gras qu'on se costumait.
Mi-carême, c'est parce que là, les gens faisaient deux mois ou...
C'est 40 jours, le carême. Okay. Fait qu'au milieu, 40 jours. À 20 jours, on fait une fête parce qu'on est tanné. Il fallait jeûner, il fallait pas boire, il fallait pas coucher ensemble.
Au bout de 20 jours, là, je m'excuse.
Fait que là, les gens, fallait ça se loge lousse un petit peu. Mm-hmm. Puis les enfants participaient aussi à ça, sauf qu'eux autres, ils mangeaient des candies. Là, puis souvent, ils ramassaient du sucre, hein, puis ils faisaient comme de la tire ou ils se faisaient un petit dessert. Hein. Puis des fois, il y en a qui faisaient plus la fête que d'autres. Mais la mi-carême existe encore au Cap-Breton, par exemple. Il y a le centre d'interprétation de la mi-carême qu'on peut visiter. Les autres, il y a ça. Il m'a raconté qu'il pêchait les perlans aussi avec un filet sur le bord de l'eau. Ça, j'avais jamais entendu ça. Les autres allaient avant que la mer gelait.
Mm-hmm.
Ils allaient directement sur le bord de la côte, en Four Roses, c'est comme en pleine mer ouverte. Se rendaient un bout, étendaient des filets et tout ça. Puis après ça, après une couple d'heures, allaient puis pognaient les poissons comme ça. Là. Alors ça, c'était comme nouveau pour moi à entendre ça. Évidemment, lui... personnellement, Luc, c'est un gars qui était pas mal vaillant. Il a commencé à travailler. Son père va tomber en bas de la maison, je pense. Il va se blesser, il ne pourra plus travailler. Fait que là, eux autres, les gars, vont commencer à prendre le dessus de la ferme, puis tout ça, puis ils vont se mettre à travailler. À un moment donné, il me racontait qu'il avait été à Montréal, quand même assez jeune. Là, il n'était pas marié, je pense. Là. Puis, il va travailler le jour. Puis, la nuit, on peut faire des chiffres de nuit aussi. Fait qu'il faisait le chiffre de jour, puis il faisait le chiffre de nuit. Il dormait à moi, je sais pas. Puis, ça faisait plus d'argent, mais... il sacrifiait le dodo là, pour ça. Là.
Il nous reste une trentaine de secondes.
Oui, ben c'est ça. Puis ouais. l'autre dame que j'ai été voir, elle ne m'a pas beaucoup donné d'informations sur les gagnants parce qu'elle ne s'en rappelait pas. C'est une madame Haché qui vient de chez son fils. Et puis, elle, c'était sa mère qui était une gagnant. Fait que eux autres, étant donné qu'ils étaient à chez son fils, dans ce temps-là, elle est centenaire. C'est Delisca Haché. Mm-hmm. Elle a 101 ans. Puis... ils avaient plus de contact chez son fils, puis Four Roses, comme trop loin dans ce temps-là. Hein. Puis elle est née, son père était gardien de phare à Chiasson-Fils. Fait qu'elle va grandir là. Puis c'est ça, elle, sa mère, c'est une ganga qui venait de Four Road. Mais elle ne gardait pas beaucoup de souvenirs de ses grands-parents à cette époque-là.
Ben, ça fait 100 ans aussi, là.
Oui, ça fait 100 ans. Ouais,
c'est loin,
ça.
Là.
Oui, c'est ça.
Merci, Philippe. C'est le fun pour les gagnants qui nous écoutent ce matin. C'est beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Philippe.
Ben, de rien. À la semaine prochaine.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!